Nous reprenons, si vous voulez bien. Et notre invité aujourd'hui est Georges Didier Huberman, qui est philosophe, historien de l'art, qui enseigne à l'École des hautes études en sciences sociales et qui est l'auteur d'un nombre considérable de livres que je n'énumérerai certainement pas, parce que cela me prendrait trop de temps. D'ouvrages qui portent sur l'histoire, sur la théorie des images, sur les rapports entre histoire, mémoire, récit et images, et sur une période historique qui est très large, de la Renaissance à l'art contemporain, sur le cinéma, puisque je crois que c'est assez nouveau, vous parliez du cinéma, et qui s'est intéressé au moment de la Première Guerre mondiale, mais par le passé, et qui ne souhaite pas revenir à ce moment-là. Donc il s'agira de la guerre, mais nous allons sortir, et ce que nous avons déjà fait à l'occasion d'autres invités, à l'occasion d'autres invitations avec d'autres invités, puisque je n'entendais pas que ce séminaire soit limité à cette guerre-là, à cette grande guerre, même si c'est surtout de celle-là que je parle, moi, dans le cours. Donc, c'est un spécialiste de toutes les sortes de l'image, actuellement intéressé par le cinéma, qui nous parlera aujourd'hui de Jean-Luc Godard, sous le titre « L'histoire à double tranchant ». Vous avez la parole.
Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Et dans le cours de la discussion, on peut tout à fait ne pas s'interdire de revenir à la Première Guerre mondiale et à Abby Warburg, si ça vous intéresse, évidemment. Mais je préférais vous proposer...
Bon,
comme vous voulez. Oui, d'accord.
Je remonterai...
Ah oui, bien sûr. Je vous proposerai donc quelques bribes d'un travail en cours. Pour vous dire de façon toute simple que pour Jean-Luc Godard, qui sera donc mon objet ce soir, le cinéma, c'est une guerre. Le cinéma est en guerre. Le cinéma est une guerre. C'est un champ de bataille. Le cinéma de Godard, c'est un cinéma qui est en guerre avec la guerre, d'ailleurs. Et puis, bien sûr, c'est un cinéma qui est en guerre avec lui-même. Il est en guerre avec lui-même parce que c'est un art de voir, le cinéma, à qui il arrive souvent de ne pas vouloir voir. Dans l'entretien de Jean-Luc Godard avec Youssef Ishakpour, un livre magnifique qui s'intitule « Archéologie du cinéma et mémoire du siècle », Ishakpour s'adresse à Godard et lui dit « Vous dites que la flamme s'est éteinte définitivement à Auschwitz ». Et Godard répond « C'est un peu abrupt, mais oui, la possibilité de penser s'est éteinte à ce moment-là. Là où le cinéma s'est pris les pieds dans lui-même, c'est que cette obligation de voir, il n'a pas su, n'a pas voulu, n'a pas pu, il ne l'a pas fait au moment du nazisme. Cette obligation de résistance, il y a un film qu'il a fait sciemment, c'était Rome, ville ouverte, et ensuite, ça a disparu. La pire façon pour un art de voir comme le cinéma, la pire façon de se prendre les pieds dans lui-même, ce qui est une expression d'ailleurs assez étrange pour une activité comme le cinéma, aura bien été ce refus de voir, ce qui suggère par opposition, chez Godard, à la fois une volonté de voir qui serait assimilable, dans ses propres termes, à une volonté de résister. Chez Godard, c'est très simple. Enfin, non, rien n'est simple. Mais il y a quelque chose de simple, c'est qu'il y a une bifocalisation très forte de l'histoire dans deux dimensions qui sont deux dimensions de la Seconde Guerre mondiale. Donc, d'un côté, les camps, de l'autre côté, le maquis, la résistance. L'histoire est à double face. Chez Godard, elle est aussi à double tranchant. C'est ce que je vais essayer de dessiner un peu trop brièvement, bien sûr, mais j'espère que ça vous sera sensible, puisqu'il est toujours possible et même fréquent de se détourner. Il est possible de résister et il est possible de se compromettre. Il est possible de voir et il est possible de ne pas vouloir voir. Et alors, ce qui est extraordinaire chez Godard, c'est qu'il assume une posture double, la posture, je dirais, de l'accusé potentiel, ce qui déjà, dans les histoires du cinéma, ça sera le seul petit extrait de film que je vais vous montrer, ça vient des histoires du cinéma, et c'est sur le motif, sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire, de la trahison. Et alors, avec votre matériel, ça ne marche pas. Ou le son ne marche pas.
Cette explication. Voilà.
Ça va mieux.
Cela ne se dit pas.
Exprimer simplement de la rancœur.
Cela s'écrit Flaubert.
De lancer un cri d'alarme.
Flaubert Dostoïevski. Cela s'écrit Flaubert Dostoïevski. Cela se repose.
Pour essayer de s'en garder.
Cela se repose. Cézanne Vermeer. Cela se registre Antonioni Vigo.
Vous avez entendu ou vous avez lu? L'homme, c'est l'animal qui trahit, et le film, c'est l'histoire de cette trahison. Et puis, vous avez entendu derrière des noms tels que Flaubert, Dostoïevski, etc. Ce qui aussi nous ramène à ce rapport extrêmement fort de Godard à la tradition littéraire. Je vais y revenir. Dans un entretien magnifique avec Serge Danet, Godard écrit ceci, ou dit ceci. Le cinéma a moins regardé le monde à un moment où on n'a plus voulu voir le monde dans l'état où l'avaient mis les camps. Le cinéma a disparu à ce moment-là. Moi, c'est à partir de là, rétrospectivement, que je me suis dit qu'en tant que cinéaste, fabricant de films, je suis en territoire occupé. Je fais partie de la résistance. J'en fais plus ou moins bien. Sous-entendu donc partie ou de la résistance. J'en fais plus ou moins bien. Je dois être comme René Hardy ou comme Trépère, comme dans ces romans que j'aime beaucoup, où on travaille pour tous les camps sans plus bien savoir. Et comme malgré tout, ce n'est pas une vraie occupation, oh, on est un peu paumé et marginal. C'est une phrase, un ensemble de phrases absolument extraordinaire. Si je lis bien, il y a cette curieuse économie de langage qui fait que d'un côté, Godard assume une très grande radicalité, on parle d'un mal absolu, et on parle symétriquement d'une prise de position héroïque faisant de Godard partie prenante de ce qu'il appelle donc la résistance. Puis dans la même phrase... il revendique de façon très étrange une ambiguïté, un goût pour le double jeu, comme dans ses romans, dont il dit qu'il aime beaucoup le fait qu'on voit travailler des gens pour tous les camps sans plus bien savoir. Il est incroyable, ou significatif en tout cas, qu'il se compare ici à deux figures de la Seconde Guerre mondiale qui sont des figures limites. Parce que René Hardy, on ne sait toujours pas s'il a été un grand résistant ou un traître infâme, ou les deux à la fois. Et Léopold Trépère, on ne sait toujours pas s'il a été un grand résistant ou un agent double, ou les deux à la fois. Et comme pour s'excuser en même temps de cette radicalité et de cette ambiguïté, Godard termine son propos en modélisant tout ça du côté de la légèreté. Bon, il ne s'agit que de cinéma, alors nous sommes juste des paumés ou des marginaux. Mais vous avez déjà senti dans ce seul exemple, il y en a une infinité, vous avez bien senti quelque chose de l'ordre de ce que j'ai envie d'appeler le double tranchant. Il y a deux tranchants, il y a des choix déchirants, nous devons trancher dans le réel. Et puis il arrive aussi, et c'est ce qui arrive en toute période trouble de l'histoire, c'est ce qui arrive au cœur des guerres, que l'on choisisse de ne pas choisir. Et qu'à la place, on prenne le pari d'un double jeu rêvé comme libre de toute contrainte et comme éventuellement gagnant sur tous les tableaux. La question étant, est-ce que c'est vraiment possible jusqu'au bout? En tout cas, Godard a un très grand courage. C'est qu'il ne se simplifie pas la vie d'artiste, de cinéaste, en affirmant que le cinéma lui-même est comptable de certains engagements historiques vis-à-vis de la pensée, de l'éthique, de la politique. Le cinéma est inséparable du tranchant de l'histoire, donc il doit être jugé. Il y a un usage très intéressant du mot « confondre » chez Godard. « Confondre », ça veut dire quand on est juge ou procureur, on confond l'accusé. Donc Godard propose que le cinéma soit confondu par l'histoire, jugé par l'histoire. En même temps, il a un autre sens du mot « confondre » qui est que le cinéma est un médium historique par excellence et peut-être à ce moment-là confondu à l'histoire dans un état d'inséparation. Depuis, je ne sais pas, la sortie des usines Lumière en 1895, le cinéma est confondu à l'histoire. Mais il est aussi comptable de l'histoire politique. Eisenstein contraint par Staline d'abandonner son grand film inachevé au Mexique, des artistes juifs allemands persécutés par le régime nazi qui émigrent à Hollywood et qui inventent une nouvelle façon de faire du cinéma. Puis, à un autre niveau, qui est celui sur lequel Godard lui-même veut intervenir, c'est lorsque le cinéma devient, mais avant Godard, il y a mille exemples, il y a Intolérance de Griffith, il y a Le Dictateur de Chaplin, il y a Octobre, il y a Rossellini, mais aussi très proche de lui, il y a Jean Rouch, il y a Chris Marker, il y a Marcello Fulz, il y a Claude Lanzmann, il y a Peter Watkins, il y a Jean-Pierre Gorin, il y a Klug, il y a Farocchi. Bref, un cinéma devenu un art, non pas pour représenter l'histoire, mais pour en faire, pour faire de l'histoire. Et bien sûr, les histoires du cinéma sont l'œuvre de cette hypothèse. Il s'agit, au fond, dans les histoires du cinéma, de transformer une destruction, celle subie en particulier par des millions d'êtres humains à l'époque même où lui, Godard, enfant, il dit lui-même, au moment de la guerre, quand j'étais enfant, je jouais à la guerre. Il épinglait des petits drapeaux nazis sur les cartes d'Europe et d'Afrique pour marquer l'avancée de la Wehrmacht. Il se plaît lui-même à dire qu'il était plutôt du côté des Allemands. Dans son âme enfantine, dans ses jeux d'enfant. Et bien sûr, quelque chose qui transforme cette destruction en une histoire, en une pratique historienne, dans une sorte de conversion considérable, convertir une économie de mort en économie de... Eh bien, à un moment donné, comme vous le savez, c'est un carton très célèbre des histoires du cinéma qui paraphrase ou qui semble paraphraser les écrits de saint Paul. En lettres capitales, l'image viendra au temps de la résurrection avec, comme vous le notez sur cette image, il y a une sorte d'aura, de tache aveuglante qui se situe quelque part entre une lueur mystique et tout simplement un projecteur de cinéma sur un plateau de tournage, bien sûr. Quelque chose sur quoi on pourrait discuter en long, il y a toute une tradition de cette problématique résurrectionnelle. On la trouve déjà chez Alberti, par exemple, dans ses textes sur la peinture, mais on les trouve plus précisément, plus proches de Godard, chez quelqu'un comme André Bazin, avec cette capacité du cinéma de revoir indéfiniment le passé, de revoir la mort elle-même, comme pour, dans l'économie de Godard, rédimer une faute originelle, celle de n'avoir pas vu. Alors, on n'a pas vu, mais on va essayer de revoir. Le cinéma, c'est un art qui permet de revoir quelque chose qui a été vu un jour. On a tourné, et puis on peut projeter le nombre de fois qu'on veut. Donc, les gens qui sont sortis des usines Lumière en 1895, ils peuvent ne jamais arrêter de sortir de cette usine à chaque fois que j'en fais une projection. Le cinéma apparaît comme une façon absolument cruciale, éminente, de citer le passé. Ce qui a été tourné un jour retourne sous nos yeux dans le temps répétable à loisir de la projection. Le cinéma est donc bien une machine à remonter le temps, mais dans tous les sens du mot remonter, et à remonter l'histoire dans tous les sens du mot remonter. En ce sens, Godard est un authentique historien. Voilà, prenons-le au sérieux. Maintenant, en le prenant au sérieux, on va pouvoir donc le discuter. Prenons-le au sérieux. Un historien, par définition, c'est quelqu'un de discutable. Sont discutables tous les chercheurs, tous les essayistes. C'est ça notre métier très modeste, hein, quand on fait des hypothèses, on fait des interprétations et on les soumet à la discussion de nos contemporains. C'est le travail de l'essayiste. Godard, dans un sens éminent, est un auteur d'essai cinématographique. Quelques-uns font de lui l'inventeur de l'essai cinématographique. C'est abusif, parce que, par exemple, La Rabbia de Pasolini, c'est 1962, par exemple, mais même avant Pasolini, vous avez tous les Allemands, beaucoup d'Allemands des années 30, et des Russes, évidemment. Dans les années 90, Godard fait en sorte que l'histoire, c'est-à-dire à la fois le devenir historique, mais aussi la discipline historique, le discours de l'histoire, deviennent images, et réciproquement. À ce moment-là, cinéma et histoire s'interpénètrent et s'interprètent mutuellement, chacun ayant vocation à ouvrir l'autre. Et là encore, je dirais qu'il y a un double tranchant. On se demande alors comment l'histoire tranche-t-elle dans ce cinéma ? Et on va se demander aussi comment le cinéma tranche-t-il dans l'histoire. Comment l'histoire tranche-t-elle dans le cinéma? Eh bien, en rendant nécessaire une autre façon de raconter des histoires ou de raconter l'histoire. C'est ce qui se passe, par exemple, très tôt dans Une femme mariée. Alors, Une femme mariée, c'est un film qui traite de questions de ce genre. Vous avez des questions de ce genre. Et puis au milieu d'Une femme mariée, vous avez une question de ce genre, c'est-à-dire une citation de Nuit et brouillard et une citation du procès d'Auschwitz qui se déroulait en fait au moment même du tournage d'Une femme mariée. C'est-à-dire que toute l'économie du récit de fiction, son discours sur la sexualité, d'ailleurs le film a subi les foudres de la censure à ce moment-là, eh bien cette économie-là est complètement, je dirais, ouverte pour aller vite, vole en éclats avec ce recours disons, au procès d'une part, au procès d'Auschwitz et d'autre part, à la référence cinématographique à Nuit et brouillard. L'histoire ouvre le cinéma dans la mesure où la complexité même de la discipline historique, depuis les grands moments de cette discipline, Burckhardt, Michelet, Nietzsche, l'école des annales et avant elle, Abby Warburg, bien sûr, eh bien, cette histoire qui se redéfinissait à ce moment-là, au moment même d'ailleurs où se développaient dans les esthétiques européennes ce qu'on pourrait appeler les arts du montage, eh bien l'histoire ouvre le cinéma dans la mesure où sa complexité même autorise à diffracter le récit filmique, comme si les expérimentations sur le montage dans les années 20 et 30, retrouvées par le biais d'une sorte de dialogue épistémologique, on pourrait dire philosophique, avec ce rapport aux sciences humaines, une nouvelle raison d'être. Les histoires du cinéma sont du cinéma à l'époque d'une nouvelle façon de faire des sciences humaines. Et voilà pourquoi les histoires du cinéma racontent l'histoire sur le mode de mémoires qui sont mises sans dessus dessous, de récits polyphoniques, des archives montées, démontées, remontées, surimprimées les unes sur les autres, etc., etc. C'est une histoire extrêmement feuilletée qui est proche en cela, je vais bien trop vite évidemment, pardonnez-moi, de cette histoire de fantôme pour grande personne qui était la définition donnée par Abi Warburg de sa propre discipline, l'histoire culturelle des images. Comme dans Mnemosyne, le grand atlas d'images composées par Warburg à la fin de sa vie, Godard laisse une place à ce que Warburg lui-même appelait une iconologie des intervalles, façon de perturber à la fois l'économie figurative et l'économie temporelle des images. Alors, chaque citation du passé s'accompagne d'une sorte de désarticulation thématique. C'est une expression que j'emprunte à Alain Badiou, qui a bien vu ça dans les histoires du cinéma, notamment. Recherche polyphonique, immense association d'associations d'idées, table de montage. On pourrait dire que le double tranchant de l'histoire s'exerce à la fois sur et contre le cinéma, et avec le cinéma, et grâce au cinéma. Le cinéma lui-même tranche dans l'histoire, c'est donc mon deuxième point, il tranche dans la conscience historique que les hommes peuvent avoir de leur temps, et cela est possible par une double opération qui consiste à montrer et à monter, démonter, remonter l'histoire. Ce qui d'ailleurs donne une sorte de, mais ça c'est un autre sujet éventuellement, une sorte d'émotion à la seconde puissance dans les montages produits en particulier par Godard. Dans cet immense exercice de montage que sont les histoires du cinéma, Godard a donc vu et revu. Il est retourné à un certain nombre considérable de moments déjà photographiés ou tournés par d'autres cinéastes. C'est un gigantesque montage de citations. C'est un gigantesque montage de citations qui est destiné à faire donc lever des rapports d'images, ce que Benjamin peut-être nommait les images dialectiques, des passés, des autrefois, qui auront une nouvelle chance de devenir lisibles par ces collisions mêmes. C'est donc une sorte de recherche du temps perdu. C'est donc une sorte de recherche du temps ou des temps par voir au pluriel et par revoir au pluriel, interposer, par montées et par remontées d'images. C'est une recherche au sens de la remontée, de l'anamnèse, c'est une recherche aussi au sens de la série expérimentale, la série exploratoire des remontages. Ce n'est pas du tout un hasard, hein, si à un moment donné, Godard dit que le cinéaste, c'est le chercheur à part entière. Il dit que la meilleure définition du cinéma, quelque part il dit ça, c'est chercheur en sciences humaines. Évidemment, quand il dit ça, il pense à quelqu'un qu'il admire beaucoup, qui est bien sûr Jean Rouch. Godard pose les questions en termes de disparition. Je ne vais pas revenir sur la question de la résurrection. Si vous voulez qu'on en discute, on en discute volontiers, bien sûr, mais je ne vais pas m'apesantir sur l'interprétation complexe, évidemment, de cette question de la résurrection. En tout cas, ce qui apparaît chez Godard, c'est que tout ça devrait aboutir à créer une sorte d'œuvre d'art qui fut en même temps un acte archéologique, une archéologie. Faire une recherche, opus operandi, mais aussi faire une œuvre, opus operatum. Faire une recherche, ça concerne tout le monde, il n'y a pas de droit d'auteur, c'est les sciences humaines, c'est le bien commun, c'est le séminaire, c'est un séminaire. Ou bien faire une œuvre, alors ça c'est un bien unique, c'est une œuvre d'art. Voilà, Godard est entre les deux. Entre les deux, Godard nous dit, comme vous le voyez ici, et il nous dit, il se filme lui-même face à son propre objectif, faire une description précise de ce qui n'a jamais eu lieu est le travail de l'historien. Alors, pour aller très vite, vous m'interrompez quand vous voulez, parce que je ne sais pas combien de temps vous voulez que je parle. On se donne 10 minutes encore ? Ça vous va ? Deux aspects concomitants, double tranchant encore une fois. Déjà dans un des articles les plus fameux de Godard qui s'intitule, comme vous connaissez tous l'expression bien sûr, « Montage, mon beau souci hein, ». C'est un texte de 1956 qui, quand on le relit, c'est un texte très bref mais admirable, conjugue autour du mot « une inconnue » au féminin. Donc, ce qui est très beau dans ce texte, c'est que Godard associe l'inconnu que j'appellerais algébrique. Il dit le montage, c'est résoudre un problème algébrique concernant la temporalité. Donc, on cherche une X, une inconnue algébrique. Mais en même temps, l'exemple qu'il donne, c'est vous croisez une fille très jolie dans la rue. Est-ce que vous allez l'aimer pour toujours ? Bon, bref, il y a l'inconnu algébrique, mais il y a aussi immédiatement dans la thématique de Godard ce que j'appellerais l'inconnu érotique. Or, dans ce que Godard met en place bien longtemps après, hein, au moment des histoires du cinéma, c'est quelque chose qui va un petit peu dans ce même double sens. Il y a une recherche objective. Les histoires du cinéma proposent des mises en relation de faits, et donc à ce niveau-là, Godard est un historien au sens le plus basique du terme, normal. On cherche des inconnus algébriques à partir de certaines mises en relation. En même temps, bien sûr, il y a la pure puissance poétique, l'inconnu érotique, la trouvaille subjective, ce que met en place un artiste voué, en fait, à la plus grande solitude, et les autoportraits que vous voyez là, en gros plan, de Godard, nous ramènent vers cette idée d'autoportrait. Bien sûr, Godard est quelqu'un qui a une sorte de romantisme de la recherche. Il est très intéressé, par exemple, vous savez, ces histoires où on dit Poincaré, par exemple. Il y a une inconnue algébrique à trouver, il ne la trouve pas, et puis finalement, il fait un rêve et il résout l'équation. Godard adore ça. Il aime les essayistes poètes, il aime les historiens artistes, il aime les savants prophètes. Il y a beaucoup de références chez Godard à Victor Hugo, à Jules Michelet, à Charles Péguy, à Paul Valéry, à Élie Faure et bien sûr à André Malraux, parmi bien d'autres. On comprend mieux dans ces conditions que Godard ait pu parler de l'histoire comme de l'œuvre des œuvres. C'est ce qu'il dit à Ishakpour, je vous cite. « Pour moi, l'histoire, c'est l'œuvre des œuvres. Si vous voulez, elle les englobe toutes. L'histoire, c'est le nom de la famille. Il y a les parents, les enfants, il y a la littérature, la peinture, la philosophie. L'histoire, H majuscule, disons, c'est le tout ensemble. Alors, l'œuvre d'art, si elle est bien faite, relève de l'histoire. Si elle se veut comme telle, et qu'elle en est l'image artistique. Il me semblait que l'histoire, H majuscule, pouvait être une œuvre d'art, ce qui généralement n'est pas admis, sinon par Michelet. Mais on pourrait citer aussi, bien sûr, Malraux, pour qui l'histoire est une œuvre d'art, bien sûr. L'histoire en tant que discours. Mais avec toutes ces références littéraires, poétiques, Godard revendique quand même ceci. Seul le cinéma peut raconter la grande histoire, dit-il. Pourquoi ? Parce qu'il est fait de la matière même de l'histoire, selon lui. En bref, pour Jean-Luc Godard, à l'histoire, il faut l'art. Il faut l'art à l'histoire. Seul le cinéma, non pas septième art, mais majeur, art majeur, est en mesure de montrer tous ces doubles tranchants de l'histoire. Les fictions avec les documents, les coïncidences que révèle l'art du montage, avec les incidences qu'isole le travail d'angle et de cadrage, les émotions et les structures, etc., etc., etc. À la toute fin du film Histoire du cinéma, Godard réapparaît face à face, face à nous, en gros plan, avec en surimpression la représentation par Francis Bacon de l'artiste solitaire par excellence, l'errant, l'incompris, Vincent Van Gogh. Godard Van Gogh. Les histoires du cinéma sont donc dans un binôme étrange. Elles sont tendues entre la plus large communauté qui soit, toutes les époques, toutes les populations, toutes les cruautés, toutes les guerres, toutes les beautés, feu d'artifice d'image, donc un espace extrêmement large de la communauté, avec la subjectivité, les marquages de la subjectivité la plus resserrée, la plus solitaire. Ce qui est peut-être une façon de s'approprier toute l'histoire à travers le prisme d'une figure, l'artiste, revendiqué de façon typiquement romantique, dans le double creuset d'une solitude et d'une totalité. Godard dit ceci à Serge Danet, la seule façon, il souligne seule, la seule façon de faire de l'histoire, c'est ça le cinéma. Mon idée, c'était que c'était la seule façon de se rendre compte que, et là c'est très intéressant comment ça devient cette phrase, que moi, j'ai une histoire, en tant que moi. Mais que s'il n'y avait pas le cinéma, je ne saurais pas que j'ai une histoire en tant que moi. Alors donc, vous voyez que c'est quelqu'un qui fait de l'histoire, mais bien sûr, au bout du compte, il fait de l'histoire en tant que moi. Une histoire seule, seul le cinéma, façon en fait, après avoir élargi complètement les choses, façon de resserrer toute l'histoire, sur un binôme psychique. Par exemple, vous le voyez en gris, en grisé, derrière cinéma-histoire, vous lisez les mots « toi, toi, toi » et dans le film, on entend « c'est-à-dire une main tendue ». Et puis, il écrit avec ses jeux de mots, ses jeux typographiques caractéristiques, il écrit que son film est « à toi », il le dédie à la femme aimée et accent aigu, moi. C'est-à-dire à toi et à moi, mais à travers, bien sûr, les moi. Le film, une des parties des histoires du cinéma, Les signes parmi nous, est donc dédié, je cite, pour Anne-Marie Miéville et pour moi-même. C'est extraordinaire, quelqu'un qui dédie une œuvre d'art à lui-même. Resserrement de toute l'histoire sur le moi seul de l'artiste, ce qui, je trouve, est très touchant d'une certaine façon, peut-être un peu hyperbolique d'une autre façon, où l'on peut entendre, parce que Godard adore jouer sur les clichés littéraires, « Madame Bovary, c'est moi ». Alors, il y a toute une séquence des histoires du cinéma où vous avez une évocation d'Homère. Homère, c'est moi. Cervantes, c'est moi. Joyce, c'est moi. Faulkner, c'est moi. Flaubert, bien sûr, c'est moi. Et là, dans l'exemple que je vous montre, vous voyez Joyce et vous voyez Poussin. Nicolas Poussin, c'est moi. Avec cette idée, au bout du compte, que toute cette histoire gigantesque nous est racontée par un homme tout seul, qui tape à la machine, qui parle dans son micro, avec une voix élégiaque, profonde, et qui dit et qui monte les images de tout ce dont il parle et imagine. Modèle, je le dis très rapidement, c'est celui-là. C'est l'artiste solitaire. C'est l'artiste des caprices de Goya. Oui, j'étais seul ce soir avec mes rêves. C'est ça qu'on entend à un moment de l'épisode 3A des Histoires du cinéma. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est à ce moment-là une façon pour Godard de produire un autoportrait de lui enfant. C'est lui, c'est Godard enfant. C'est-à-dire, c'est Godard à l'époque de la guerre, je précise. C'est Godard quand la guerre, historiquement, se déroulait. Il y a donc une question, maintenant, je termine là-dessus, une question à poser. Qu'est-ce qui se passe entre la modestie inhérente à tout essai et la présomption inhérente à toute œuvre d'art? Est-ce que Godard se croit le créateur de cela même sur quoi porte son essai? Oui ou non? Est-ce que les histoires, c'est moi? Est-ce que l'histoire, c'est moi? Au fond, peut-être qu'on pourrait poser cette question en termes d'éthique et de politique, de savoir qu'en est-il de la position de Godard dans cette histoire que Jacques Rancière, dans un très très bel article sur les histoires du cinéma, nommait une histoire contrariée. Voilà, c'est juste une question. Merci.